Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Monsieur, comme vous le savez, je ne serai pas élu et tout engagement de ma part ne serait pas crédible. Cela dit, je suis d'accord avec vos trois demandes, ne pas modifier la loi sur la laïcité, ne pas introduire d'aménagement particulier à l'égard d'une communauté religieuse, ne jamais réintroduire le délit de blasphème dans la législation. Voilà ce que répond Nathalie Arthaud à Charlie Hebdo. L'hebdomadaire a sollicité l'ensemble des candidats à la présidentielle afin qu'ils s'engagent à défendre la laïcité autour des trois points évoqués et leurs réponses sont publiées cette semaine. Alors il aura fallu cette initiative pour qu'en fin de campagne, la laïcité réapparaisse dans le débat. Car contrairement à ce qu'on pouvait attendre et peut-être même craindre, c'est un thème qui en aura été relativement absent, comme l'écrivait le journal Le Monde en début de semaine. Peut-être du fait d'une hypervisibilité quelques mois plus tôt. Alors à l'occasion de la journée spéciale que vous propose France Culture depuis ce matin et intitulée « Identité, laïcité, citoyenneté, quel avenir pour le modèle républicain ?» Nous avons choisi d'en faire le thème de notre club du vendredi. La laïcité participe-t-elle à la construction de l'identité républicaine française et les usages qui en sont faits sont-ils toujours compatibles avec son idéal de tolérance? La laïcité est-elle identitaire? Identitaire dans les deux sens du terme, bien entendu, sens premier puis celui qui a été fini par s'imposer depuis quelques temps. Cette question, nous allons la poser à Anastasia Colosimo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez la théologie politique à Sciences Po. Vous avez publié chez Stock Les bûchers de la liberté. Ça devait être en 2016 ou 2015. Si je cite à nouveau votre livre, je ne fais pas à chaque fois, mais c'est parce que là, il y a une vraie raison d'évoquer cet ouvrage, étant donné le thème de ce soir. Deuxième invité, deuxième membre du club, Philippe Manière. Bonsoir.
Bonsoir.
Consultant, vous dirigez le cabinet Footprint Consultant. Tiens, peut-être qu'on peut renvoyer à une publication signée Philippe Manière également.
Éventuellement, la dernière, c'est le pays où la vie est plus dure. C'était chez Grasset, c'était il y a 3 ans, je crois.
Et puis Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Producteur à France Culture, la suite dans les idées, chaque samedi à 13h30, mais également documentariste, puisque Penser l'identité, premier volet d'une série dont on va avoir l'occasion de parler, dont vous êtes l'auteur, sera diffusé ce dimanche soir sur France 5 et dès à présent visible sur le site lemonde.fr.
Le débat sur le principe de laïcité résonne au plus profond de nos consciences. Il renvoie à notre cohésion nationale, à notre aptitude à vivre ensemble, à notre capacité à nous réunir sur l'essentiel. La laïcité est inscrite dans nos traditions. Elle est au cœur de notre identité républicaine.
Ce mot laïcité, qu'est-ce que cela évoque pour vous ?
C'est sur les bancs de l'école de la Troisième République que la laïcité, proclamée par la Révolution de 1789, prend toute sa dimension.
Riches et pauvres sont égaux, chacun selon son mérite.
Voile islamique, kippa, croix de taille excessive depuis 2004, le port de signes ou de tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit à l'école.
Pour les uns, c'est une tradition populaire. Pour les autres, une entorse au principe de laïcité. La crèche a-t-elle droit de citer dans un bâtiment public ? Le Conseil d'État doit statuer pour clarifier les règles une fois pour toutes.
Depuis hier, la plage de Cisco est interdite aux personnes portant le burkini. La ville de Cannes a été la première à prendre une telle mesure pour, dit-elle, des raisons de sécurité 2 semaines après l'attentat du 14 juillet à Nice. Le burkini serait une tenue de plage manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse. D'autres élus ont l'intention de prendre à leur tour des arrêtés anti-burkini. Dernier en date, le maire du Touquet.
Voilà, Douce France pour conclure ce mix réalisé comme chaque semaine par Jean-Christophe Francis autour de cette question donc de la laïcité avec un certain nombre de faits d'actualité plus ou moins récents au cours desquels la laïcité a été convoquée. On n'a pas fait comme on le fait peut-être d'habitude, pris des extraits de politiques, en tout cas de candidats à la présidentielle, pour deux raisons. D'abord parce qu'avec les règles du CSA, si on passe l'extrait d'un des candidats, il faut passer un extrait identique en termes de durée de tous les autres, mais aussi parce que finalement, et de manière peut-être un peu surprenante, la laïcité n'a pas été si présente que cela dans le débat de cette présidentielle, en tout cas jusqu'à présent. Est-ce que vous partagez ce constat, Philippe Manière? Et si oui, comment est-ce que vous expliqueriez, si ce n'est cette absence, mais en tout cas cette discrétion?
Je le partage, je constate. C'est même stupéfiant quand on y pense. C'est-à-dire qu'il y a seulement 8 ou 9 mois, quand on était au pic de l'hystérie burkini, je crois qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer un instant que le débat présidentiel puisse se dérouler sans évocation de la laïcité un peu sérieuse, et même sans que la laïcité soit sans doute un des éléments du clivage entre candidats, et ça n'a pas été le cas. Alors pourquoi ça n'a pas été le cas? Je crois quand même qu'il y a parfois des éléments qui sont dus au hasard, qui sont liés au hasard. C'est un sujet dont on avait beaucoup parlé. Je ne dis pas qu'il est purgé, parce qu'il est très important dans l'esprit français. L'extrait que vous avez passé tout à l'heure de Jacques Chirac était, à mon avis, assez juste de ce point de vue-là. C'est quelque chose qui résonne dans nos consciences, comme il le disait. C'est quelque chose qui est un élément de l'identité républicaine. Cependant, on l'avait presque épuisé, j'allais dire, avec l'hystérie de l'été dernier. Et puis surtout, d'autres sujets sont apparus. Mais ce sont des sujets qui tous, comme la laïcité, et dans le fond, ça banalise cette espèce d'interrogation qu'on a sur la laïcité ce soir, qui tous n'ont fait que passer. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a un sujet qui, pendant cette présidentielle, est duré. Et on finit finalement, si je puis dire, avec des interrogations qui sont plus sur le type de renouvellement que les Français souhaiteraient. Est-ce qu'il faut changer de génération? Est-ce qu'il faut changer de parti? Est-ce qu'il faut changer d'institution? On voit bien qu'il y a une espèce de désir de renouvellement. Et puis le débat s'organise plus ou moins sur les différents avatars de ce renouvellement possible. Mais il y a pas grand-chose sur le fond. Et donc la laïcité est passée à la trappe, comme beaucoup d'autres sujets fondamentaux sont passés à la trappe.
Je ne sais pas si vous serez en désaccord avec Philippe Manière, Anastasia Colosimo. Est-ce que vous partagez ce constat? Et si vous le faites, est-ce que vous le déplorez? Est-ce que vous considérez que la laïcité aurait peut-être été davantage présente dans le débat? Ou peut-être qu'au contraire, c'est peut-être pas si mal qu'on en ait un peu moins parlé du fait, comme vous le disiez, Philippe Manière, de l'hystérisation autour du burkini, notamment l'été dernier?
Je partage complètement le constat. C'est vrai qu'on en a parlé, moi aussi je pensais qu'on allait en parler énormément, on en a parlé relativement peu, ensuite c'est pas vrai qu'on en a pas parlé du tout, mais surtout on n'a pas trop parlé parce qu'en fait la laïcité, pas au sens de la loi hein, de 1905, mais la laïcité dans la pratique qu'il y avait en France pendant très longtemps, de ne pas parler des questions de religion, d'être assez pudique même sur sa propre religion, ça a complètement volé en éclats, parce qu'on voit que tous les candidats ont parlé soit de leur propre religion, ça a été le cas de François Fillon qui a dit je suis chrétien quand même à la télé, c'est quand même bizarre, dans la tradition française en tout cas, qui était de rester extrêmement discret. Et ensuite on a aussi un Mélenchon qui vient d'une tradition extrêmement laïcarde et qui fait en même temps une intervention dans Famille Chrétienne où il parle de sa mère extrêmement pieuse, etc. De la même manière, bon, Le Pen évidemment avec toujours la bipartition entre une Marion Maréchal-Le Pen, d'ailleurs en fait assez anti-laïque, et Marine plutôt très laïcarde, etc. Donc je pense qu'en fait les candidats se sont positionnés aussi religieusement quelque part et sont allés chercher des votes. On a vu là récemment le vote catholique avec Macron. Et de la même manière, on a un vote catholique avec Fillon, on a un vote catholique avec Le Pen, etc. Donc je pense qu'il y a un délitement général sur cette question de laïcité, qu'il y a plus de retenue sur la question. Et le débat de fond n'a pas eu lieu parce qu'il y a un épuisement et parce qu'effectivement, c'est une cause d'hystérisation telle qu'au bout d'un moment, ça paraît plus possible.
Sylvain Bourmeau.
Moi, j'ai une autre piste pour expliquer la relative sourdine mise sur ce thème qui occupait beaucoup l'espace public avant que la campagne ne démarre. En fait, je l'expliquerai principalement par le fait que les deux responsables politiques qui étaient les plus porteurs de ce thème, ceux qui voulaient inscrire la laïcité sur l'agenda de l'élection présidentielle, ont été éliminés lors des primaires. Il s'agit d'une part à droite de Nicolas Sarkozy qui avait un intérêt stratégique probablement à faire de ce thème un thème de débat. On voit bien que François Fillon, soutenu par la France catholique militante, on va dire catholique traditionnaliste, était plus embarrassé d'en faire un thème important. Et je partage ce que vient de dire Anastasia Colosimo à propos du Front National. Compliqué pour Marine Le Pen, même si elle met en avant la laïcité, d'aller vraiment au bout de sa démarche, puisque ce parti a été aussi, pour le coup, créé par des catholiques intégristes qui joue un rôle encore aujourd'hui au sein du Front National, incarné par Marion Maréchal Le Pen en particulier. Donc ça, c'est le premier aspect. La deuxième personne qui a parlé lors de cette élection, lors des primaires de gauche cette fois, c'est Manuel Valls. Manuel Valls a attaqué pendant les débats, rappelez-vous, cette question de la laïcité. Il avait en face
en attaquant
de,
d'ailleurs Benoît Hamon.
En attaquant Benoît Hamon, mais aussi en cherchant des noises d'une certaine façon à celui des responsables politiques qui est le plus grand spécialiste de la laïcité, question à laquelle il a consacré des ouvrages savants, Vincent Payon, qui a beaucoup travaillé sur Ferdinand Buisson, etc. Enfin, qui est quelqu'un qui connaît bien le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui défend, et il l'a fait lors de ce débat, une laïcité telle qu'elle est dans la loi de 1905. Si je me souviens bien, le propos qui était celui, la position commune de Payon, de Montebourg, de Hamon, de tous les autres, au fond, c'était la loi de 1905, rien que la loi de 1905. C'est-à-dire, au fond, exactement ce que demande Charlie Hebdo, c'est-à-dire vraiment de préserver absolument le principe républicain tel qu'il a été inscrit au début du XXe siècle et qui est devenu ce qu'on appelle l'un des principes fondamentaux des lois de la République, c'est-à-dire quelque chose qui a valeur constitutionnelle. Donc, en fait, ces deux candidats, une fois sortis, eh bien, la question de la laïcité s'est trouvée, elle aussi, un peu dégagée, je dirais, du débat public. Voilà comment, moi, je l'explique.
Et je rajoute d'ailleurs que personne parmi les candidats aujourd'hui qui se présentent à l'élection présidentielle n'est contre la loi de 1905. Pas un seul candidat n'a dit « je veux revenir sur la loi de 1905, je veux changer la loi de 1905 ». On a quand même compris, à travers justement l'hystérie de ce débat, qu'il ne faut surtout pas toucher à la loi de 1905.
En tout cas, parmi ceux qui ont répondu à Charlie Hebdo, étant interpellés notamment sur le fait le journal attendait qu'il s'engage sur le fait qu'il ne toucherait pas à cette loi, tous ceux qui ont répondu, c'est une très large majorité des candidats, disent non, il n'y a absolument pas question de toucher à cette loi. J'ai pas eu le temps de vous demander du coup tout à l'heure, Philippe Manière, si vous regrettiez la relative discrétion de ce thème dans la campagne, même s'il apparaissait, mais de manière peut-être un petit peu plus annexe.
Moi, j'ai toujours été embarrassé avec cette thématique. Quand vous nous avez dit qu'on allait parler de ça ce soir, je trouvais que ça allait probablement pas être notre émission la plus facile, parce que c'est un sujet d'une immense complexité, pour les raisons, d'ailleurs, c'est intéressant, la thématique que vous avez choisie, c'est le lien entre laïcité et identité en France, et effectivement, il est aujourd'hui doublement juste, ce lien. C'est-à-dire que la laïcité, les Français souvent ne s'en rendent pas assez compte, c'est un facteur, c'est un ingrédient considérable de l'identité française. La manière dont on regarde ce sujet en France n'a pas d'égal ailleurs. Vous voyez toutes les grandes démocraties comparables, elles ont chacune eu à traiter ce sujet d'une manière ou d'une autre, alors pas dans les conditions qu'on a eu à connaître en France, compte tenu de la domination de l'Église catholique à la fin du 19e siècle. Mais tout le monde a eu à traiter le sujet et personne n'est tombé sur quelque chose d'aussi catégorique que nous. Vous regardez en Allemagne ce que les Canadiens appellent les accommodements raisonnables, vous regardez en Allemagne, vous regardez aux États-Unis. Il n'y a pas la même manière de voir le monde pour une raison qui, je crois, alors pour le coup, plonge ses racines dans l'identité culturelle française et non pas l'identité politique. C'est qu'il y a une chose particulière en France. La plupart des intellectuels, quand je dis la plupart, c'est la quasi-totalité des intellectuels, considèrent que la foi est un vestige d'un passé barbare et qui va finir par s'éteindre, et que quand on aura vraiment éclairé l'humanité, quand le progrès aura accompli toute son œuvre, alors plus personne ne croira en rien en matière de religion, parce que c'est absurde. Et donc en France, on a une vision de la foi qui est quasiment incompatible avec la raison. Alors même que dans tous les pays que j'ai cités, et qui sont à peu près aussi raisonnables que la France, on peut tout à fait admettre que quelqu'un d'intelligent et qui a une vision du progrès, et même qui soit progressiste, soit par ailleurs croyant. Donc la vision française est très particulière. Alors ça, c'est l'identité 1. Et puis il y a l'identité 2 qu'on a abordée, mais qu'il faut quand même, je crois, qu'on traite vraiment, et qui, à mon avis, explique pour partie, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, le fait que beaucoup de gens étaient prudents avec le sujet pendant la campagne, c'est qu'il y a l'identité laïque française face à, non plus le catholicisme comme en 1905, mais à l'islam, il faut appeler un chat, ce qui aujourd'hui est entendu par beaucoup de gens quand on parle de laïcité, c'est la compatibilité l'islam avec les lois de la République. Et ça, on voit bien que c'est un sujet qui est à la fois très important et très casse-gueule intellectuellement et casse-gueule sur le plan électoral. On ne sait pas bien s'il existe un vote musulman, mais on sait qu'il y a 5 millions de musulmans en France, plus ou moins, et donc je crois que personne n'a envie d'ouvrir un front sur ce sujet au prix de perdre leur voix.
Alors justement, sur cette question de la compatibilité de l'islam avec l'identité de la République, vous ne l'avez pas fait exprès, je pense, Philippe Manière, parce que je crois que vous n'avez pas encore vu le documentaire de Sylvain Bourmeau, mais c'est justement un des thèmes qu'évoque. Alors Sylvain Bourmeau, d'ailleurs, peut-être, on peut dire un mot donc, de ce documentaire, une dizaine d'intellectuels que vous sollicitez sur un certain nombre de thèmes, Le premier épisode, c'est sur celui de l'identité, ça, des écrivains, des chercheurs.
Moitié-moitié de chercheurs en sciences humaines et sociales et d'écrivains de littérature.
Voilà, et parmi eux, parmi donc ces littéraires, le romancier Mathias Hénard, bah tiens, je vous laisse écouter un extrait de ce qu'il dit sur la question de l'identité.
Il y a une espèce de violence de l'identité imposée. On vous dit non, en français c'est ça. Parce que c'est justement le pouvoir politique qui va imposer ce discours hein, sur ce que c'est que la France. Alors que si on interrogeait chacun des Français pris séparément sur ce qu'ils entendent par qu'est-ce que ça signifie être français, bien évidemment, ils auraient chacun une réponse différente qui correspond à leur pratique quotidienne de la réalité de leur nationalité. Mais cette violence qui est de plus en plus là, en France, dans le discours politique, alors que ce soit à droite, à gauche, chacun cherche à imposer justement sa vision de l'identité, plus inclusive que d'autres, mais toujours dans l'exclusion, c'est-à-dire très difficile qu'on vous dise, vous pouvez, alors, français et musulman. Alors on se pose la question, est-ce que c'est compatible ? Est-ce qu'on peut être français et musulman ? On se pose pas la question, est-ce qu'on peut être français et catholique ? Alors que ça va pas forcément de soi, en fait.
Voilà, extrait donc de ce documentaire, Mathias Hénard. Sylvain Beaumont, alors il faut dire, Mathias Hénard ne parle pas de laïcité, mais enfin, évidemment, dans ses propos, ça y fait quand même assez directement référence.
Oui, mais c'est assez symptomatique, ce mot n'apparaît pas du tout dans la parole des 10 intellectuels que j'ai interrogés, c'est-à-dire qu'ils parlent d'identité de multiples manières. La question de la laïcité n'apparaît pas. La question de la religion, oui, Pascal Quignard tient des propos comme à son habitude, très, très défiant à l'égard de toute religion.
C'est vrai que j'étais assez surpris qu'on n'entende pas ce mot. Je me suis dit, identité, aujourd'hui, forcément, il y en a un qui va le lâcher. Alors bon, il y a aussi du montage, donc peut-être qu'ils l'ont dit dans des séquences qui n'ont pas été gardées.
Mais... Moi, ça ne me surprend pas du tout, parce qu'au fond, j'ai du mal à associer identité et laïcité, dans la mesure où, pour moi, la laïcité, c'est le contraire de l'identité. La laïcité, c'est bien rappelé par le texte de Charlie Hebdo, c'est un principe, c'est une règle fixe qui n'a pas vocation à changer. C'est un principe fondamental de la République. Et c'est un principe, et pas n'importe quel principe, c'est un principe qui est fait pour organiser la pluralité, la multiplicité des identités. Donc, ce principe ne peut pas être l'une des identités qui l'organise. C'est d'un point de vue logique, strictement absurde. C'est comme quand on doit, vous savez, il y a ce temps de parole destiné aux émissions religieuses, alors on découpe en fonction des religions.
On connaît bien ça sur France Culture.
Et puis on a un temps de parole qui est réservé à ceux qui n'ont pas de religion. Mais par qui sont-ils représentés ? Par personne, il n'y a pas d'organisation. C'est toujours un problème des gens qui n'ont pas de religion, de se nommer, d'apparaître comme un groupe social, ce qu'ils n'ont jamais fait, au fond, dans l'histoire. Et donc, la laïcité, elle a pour vocation, et c'est ça ce qu'il y a de plus précieux dans ce principe, de permettre de mettre en dehors d'un certain nombre d'endroits, d'espace public, les questions religieuses, pour pouvoir avoir un espace politique dans lequel ces questions n'interfèrent pas. C'est aussi sanctuariser la possibilité pour les individus, à titre individuel, d'avoir une croyance, d'avoir une religion. C'est cette double chose, la laïcité. Bon. Mais être laïque, du coup, c'est respecter ce principe, c'est en rien une identité. C'est pour ça que, personnellement, j'ai toujours été choqué, même par l'utilisation du mot laïcard, qui identifierait une identité laïque, en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, en 1984, quand j'étais un farouche partisan de la réforme du système éducatif français, de ce grand système unifié que Alain Savary proposait, et la gauche, le gouvernement de Pierre Mauroy proposait, qui visait en gros à supprimer cette distinction entre école privée et école publique, donc école privée confessionnelle, hein, c'était l'essentiel d'entre elles. On nous a, à l'époque, et en particulier les mêmes qui parlent aujourd'hui de laïcité, qui se font les héros de la laïcité, ont à l'époque désigné les gens qui défendaient ce combat laïque comme des laïcards, comme si c'était une identité politique.
Mais c'est peut-être pour moi, révélateur
pour
du
moi,
fait
ça ne l'est pas du tout.
C'est peut-être révélateur du fait qu'il y a plusieurs façons d'aborder la laïcité.
Alors déjà, je trouve que quand même, c'est assez gonflé de dire ça. C'est-à-dire, dans l'histoire de France, il y a des laïcards, il y a des gens qui étaient contre l'Église, il y a des gens qui pensaient effectivement comme la différence.
Est-ce qu'il y a des démocraticards aussi, ou des républicards,
oui, bien sûr.
Avec la notion péjorative qu'il peut y avoir art.
Mais enfin, il y a des arts pour tous, ça dépend où est-ce que vous placez. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire de la loi de 1905, ça n'était pas une loi sur laquelle tout le monde était d'accord. Ça a été quand même quasiment une guerre civile, et il y avait des gens qui étaient contre l'Église. Ils n'étaient pas juste pour la séparation des Églises et de l'État. Ils étaient contre l'Église.
C'est un chef-d'œuvre du parlementarisme, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, oui, mais d'ailleurs, mais moi, attendez, moi je suis pour la laïcité. Donc ça, c'est le deuxième point. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'en France, et c'est Philippe Manière a tout à fait raison là-dessus, il y a une tradition qu'il n'y a pas dans les autres pays d'anticléricalisme. Dans tous les autres pays, il y a une hyper-tolérance du religieux parce qu'effectivement, il n'y a pas de conflit entre raison et foi. Il y a ce conflit-là en France, effectivement, on se dit, mais en fait, les religieux doivent disparaître, la religion doit disparaître. Ce qui fait aussi qu'il y a un malaise autour de la question religieuse en France parce que ça n'est pas le message qui a été porté par la Révolution, ça n'a pas été le message porté par les Lumières. Une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'il ne s'agit pas non plus... Alors, effectivement, la laïcité, c'est un régime. C'est quasiment un régime politique, c'est un principe. Et là-dessus, sur le mot, je suis complètement d'accord avec vous. En revanche...
Est-ce que juste, pardonnez-moi, une petite parenthèse, Anastasia Colosimo, est-ce que ça vous gêne aussi qu'on puisse parler d'identité, enfin qu'on puisse accoler les deux termes,
alors
identité et laïcité?
Justement, je pense que c'est un principe et il ne s'agit pas d'identité au sens, vous voyez, propre. En revanche, je pense que la laïcité... dit beaucoup de ce que nous sommes et de ce que nous voulons et du type de société dans lequel on veut vivre. Et en ce sens-là, effectivement, ça correspond beaucoup à l'identité française. Pourquoi ? Parce que la laïcité, elle arrive, donc la loi sur la laïcité, elle arrive en 1905, mais il y a quelque chose de très fort dans cette loi et qui d'ailleurs regroupe pas seulement la mixité religieuse, mais aussi la mixité sociale. Il faut revenir pour ça, à mon avis, à la Révolution et à l'idée extrêmement forte qu'a au moment de la Révolution française, qui est de dire on va abolir les corporations, on va abolir les corps intermédiaires. Cette loi-là, c'est la loi Le Chapelier, hein, 1791, qui abolit les corporations. Et donc, on rentre en fait dans un régime politique qui est que l'État s'adresse à des citoyens et jamais à des communautés, jamais à des groupes, jamais à des corporations. La loi de 1905, elle vient illustrer cette même logique qui contient de la Révolution, qui est de dire l'État ne veut pas s'adresser à des communautés, l'État veut parler qu'à des citoyens. C'est pour ça que nous n'avons pas de statistiques ethniques, c'est pour ça que nous n'avons pas de statistiques religieuses, hein, on les a pas. Quand on dit combien de musulmans en France, en réalité, on sait pas vraiment. Et d'ailleurs, la question se pose pas vraiment. Donc, en plus, cette loi-là correspond à une tradition antérieure et qui, aujourd'hui, s'est diffusée beaucoup dans la cité, qui est que cette question religieuse, on ne veut pas en entendre parler, c'est vraiment de l'ordre du privé. Et ça ne regarde pas l'État. En ce sens-là, évidemment, c'est un régime politique à défendre qui nous ressemble et qui donc, effectivement, recoupe une identité, qui est l'identité française.
Philippe Manière.
Oui, non, je pense qu'il faut revenir un instant sur ce que disait Sylvain sur les laïcars. Pourquoi cette expression a malgré tout un peu un sens? Oui, ce qu'elle a de péjoratif peut être désobligeant, mais parce que dans la laïcité, il y a le principe qu'on vient d'évoquer, qui est évidemment un principe avec lequel il est difficile de ne pas être d'accord et qui est aussi une manière de régler les relations entre les citoyens. Donc voilà, c'est très bien. On l'a, nous, on a une vision de ça qui est un peu particulière en France, mais je crois que cette règle de vie en commun est raisonnable et qu'il n'y a pas de raison que ça pose un problème et que ça nourrisse des oppositions. La difficulté, c'est qu'il y a des gens qui ont une vision de la laïcité qui est militante. C'est la différence entre l'agnostique et l'athée. Il y a des gens qui pensent que la laïcité, c'est en quelque sorte vouloir réduire à néant l'expression de toute religion, de toute vision religieuse. Et c'est là où il y a, et les gens d'ailleurs qui sont dans cette vision n'en sont pas complètement conscients. Mais c'est vrai que le débat public est souvent biaisé parce que sur la laïcité en tant que neutralité et en tant que tolérance, c'est ça les deux articles importants de la loi de 1905, hein. C'est un, on fait bien ce qu'on veut, deux, on juge pas les gens là-dessus. L'État garantit les cultes et puis il y a pas de soutien de la liberté. Enfin, l'État garantit le libre exercice de la foi de chacun et en revanche, il s'interdit de soutenir aucun culte. Là-dessus, il n'y a pas matière à être en désaccord. Le problème, c'est que certains militants laïcs, parce que ça existe, qu'on qualifie de manière désobligeante, j'en conviens volontiers, de laïcars, ont une vision qui est différente, c'est il faut lutter contre les religions.
Mais Philippe Manière,
c'est un non-dit et que le glissement sémantique est très souvent fait sans qu'il soit explicité, eh bien ça pourrit un peu les termes du débat.
Mais est-ce qu'on pourrait pas vous rétorquer que le militantisme, on peut aussi très bien le trouver finalement dans l'autre camp, j'utilise le camp avec énormément de guillemets, mais non pas de ceux qui sont pour une application extrêmement stricte des règles de la laïcité, mais de ceux qui considèrent qu'il faut l'appliquer de manière un peu souple, de manière ouverte, puisque alors, la laïcité est très adjectivée aujourd'hui.
C'est là où les temps que nous vivons sont particuliers, parce que je pense que, et c'est là où clairement la loi de 1905 avait été très utile, l'excès de présence du catholicisme dans le débat public devait être réduit et a été réduit par la laïcité. Aucune autre religion pendant longtemps n'a prétendu lutter contre la laïcité pour s'exprimer au-delà de sa part de voix, j'allais dire, et au détriment des valeurs de la République. Aucune, jamais. Et là, la question se pose, je ne dis pas que j'y réponds positivement, mais la question se pose, depuis quelques années, de la laïcité à raison de sa compatibilité ou non avec une certaine vision musulmane de la vie en commun. Pourquoi ? C'est pas moi qui le dis, parce que certains musulmans disent ça pose un problème, parce que la vision de certains musulmans est que, en quelque sorte, la religion doit l'emporter sur les autres critères de la vie en commun. Et donc, ça pose un problème théorique important, et ça pose aussi, évidemment, un problème opérationnel, là où ce soupçon se concrétise et correspond à une réalité. Je ne dis pas, encore une fois, que c'est général, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je dis que ce problème de l'invasion anti-laïque de l'espace public par une religion était un problème qui n'existait pas, parce que les autres religions avaient été soit réduites à leur juste place après avoir dominé excessivement la religion catholique, soit jamais concernées par le risque d'impérialisme. Et là, on a, pour la première fois depuis 1905, cette question qui se pose dans des termes crus, parce que tout simplement, encore une fois, opérationnels.
Sauf que ce débat sur les anti-laïques, ou en tout cas voilà, la progression des anti-laïques, en général, il a lieu entre des partisans de la laïcité. C'est-à-dire, j'ai fait quand même un certain nombre de débats autour de cette question, et à chaque fois, j'ai des participants qui disent ben, « nous, on est pour la laïcité », sauf que voilà, on n'a pas tout à fait la même vision, ce qui fait que explique aussi peut-être qu'on parle de laïcard, qu'on parle de laïcité souple, de laïcité ouverte, de laïcité stricte, Sylvain Bourmeau.
Oui, je crois que dès lors qu'on met un adjectif derrière laïque, on affaiblit le principe. C'est-à-dire que la laïcité, c'est la laïcité, point barre. Il n'y a pas à la voir dure, souple, rigide ou je ne sais quoi. Je suis bien d'accord avec Anastasia Colosimo sur le fait que la laïcité est le produit d'une longue histoire politique, de tradition politique. Ça n'en fait pas pour autant, pour moi, une identité. Et je dirais même, et je répète, que c'est le contraire. C'est-à-dire, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'Europe, avec la charte des valeurs européennes, etc., l'identité, elle est dans la recherche d'une forme d'essence, de substance. Il n'y a aucune espèce d'essence ou de substance à la laïcité. Vous seriez bien en peine de trouver l'essence de la laïcité. Ça n'a pas de sens de poser cette question. La laïcité est juste un principe, justement, qui permet de faire que composent ensemble des essences, des substances, ou en tous les cas, ce que les gens vivent comme ça, qui sont des identités religieuses, pour le coup. Donc, en fait, pour moi, il y a un piège à accepter le fait que la laïcité puisse devenir une identité. De façon très concrète, quand il s'agit, par exemple, de répartir le temps de parole entre religion et puis d'en accorder une partie à la non-religion, entendue comme la laïcité, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ce qui est la laïcité, c'est au contraire le principe d'organisation. Donc, encore une fois, pour moi, ça ne peut pas être... C'est une caractéristique de la République française, mais ça ne peut pas être une identité. Maintenant, je voudrais venir à la question de l'islam, quand même, qui est importante, parce qu'il y a eu un double retournement, à mes yeux, qui s'est produit dans les années 80. Évidemment qu'il y a une dimension militante dans la laïcité. La laïcité, elle ne s'est pas faite uniquement avec la loi de 1905. Cette loi, d'abord, est le produit d'un combat politique extraordinaire au 19e siècle, de la République contre la monarchie, contre l'Église catholique, hein, qui n'a pas vu d'un bon œil l'installation de la République en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est évidemment cette dimension...
Mais avec après, parfois, elle parle très brièvement, avec des quasi-excès, en tout cas une forme de violence de la part de ceux qui ont gagné. C'est-à-dire, rappelez-vous quand même ces congrégations expulsées, ces chartreux arrachés de leur retraite.
Enfin, bon, il y a eu des choses française.
Non, mais au moment de 1905, il y a eu des gens à qui on a fait violence en les arrachant.
Je suis en train de dire, il y avait cette dimension.
C'était un vrai combat dans les deux sens.
Il y avait cette dimension de combat. Cette laïcité a dû être construite contre. Mais jusqu'en 1984, dans ces manifestations dont je parlais à Versailles tout à l'heure, la manif pour tous, au fond, c'est la même population. Évidemment, les gens ont un peu vieilli, ils ont fait des enfants, mais grosso modo, c'est la même identité politique, pour le coup, que l'on a vu dans la rue, à la fois contre la loi Taubira et à l'époque contre la loi Savary de réforme de l'école. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? Cette dimension de combat de la laïcité orientée vers la religion catholique a changé d'orientation et s'est dirigée, s'est focalisée à partir de l'affaire du voile en 1989 sur l'islam. C'est le premier changement. Le deuxième changement, je vais faire très court, c'est qu'on passe, et c'est très important à mon avis pour comprendre la suite, on passe d'une laïcité dont le principe fondamental est celui qui consiste à s'appliquer aux institutions, on passe d'une laïcité qui s'implique aux institutions, en l'occurrence les écoles, les hôpitaux, etc., à une laïcité qui va venir tenter de s'appliquer aux personnes. Le voile, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va chercher des noises à des gens, et bientôt à des gens qui se promènent dans la rue, parce qu'ils ont un voile. Or, Là, pour le coup, on a une nouvelle définition de la laïcité qui, personnellement, me pose problème. Je suis bien plus d'accord avec la laïcité américaine qui, par exemple, rappelons-le, on ne le rappelle jamais assez, la Cour suprême interdit le financement public de la moindre école confessionnelle aux États-Unis. Les États-Unis sont, de ce point de vue, un pays laïque.
Mais si, alors, la laïcité, si la laïcité permet finalement ces changements d'interprétation au fil du temps, est-ce qu'on ne peut pas aussi y voir la preuve que ce texte qui organise la vie en société ne devrait peut-être pas être aussi immuable qu'on le dit aujourd'hui? C'est quand même un texte qui a plus d'un siècle. Je suis toujours surpris, moi, de voir, et alors ça se manifeste effectivement dans les réponses qui sont apportées par les candidats à la présidentielle à Charlie Hebdo, de dire, voilà, on ne va pas toucher une vie à un texte, mais je veux dire, le monde évolue, les textes de loi peuvent évoluer. Est-ce qu'on n'en fait pas aussi un texte de loi quasi divine aujourd'hui?
En fait, sur cette question, la réalité, c'est qu'elle fait partie des grandes lois de la Troisième République, et il y en a d'autres auxquelles on n'a pas touché non plus. Le droit d'association, c'est 1901. Le droit sur la liberté de la presse, c'est la loi de 1881.
C'est pas parce que c'est vieux qu'on va interdire la liberté de la presse.
Il y a quand même cette idée-là. En revanche, moi, j'aimerais vraiment revenir sur...
Le texte majeur aujourd'hui qui organise la société, c'est la Constitution, par exemple, et Dieu sait qu'il y a des débats autour de...
Mais alors, oui, mais les principes fondamentaux,
alors justement, si c'est possible, une seconde. Justement, parce qu'on parle de changer la loi de 1905, et d'ailleurs, l'une des choses qu'on dit quand on parle de changer la loi de 1905, c'est justement se tourner vers les États-Unis ou le Canada et embrasser justement les accommodements raisonnables, tout ce que font les Américains. Rappelons à ce titre d'ailleurs que on ne peut pas du tout parler aux États-Unis d'un pays laïque, tout simplement parce qu'il y a une religion civile. Il y a une référence à la transcendance qui est permanente et à un dieu qui a une sorte de dieu américain. Pourquoi est-ce que du coup on peut quand même essayer de lier cette question de laïcité et d'identité? Parce que justement, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Par exemple, vous naissez dans une famille de Amish. Vous naissez dans une famille de Amish, vous allez dans une école de Amish, et à aucun moment on vous dit que le monde peut être autre que celui que vous présentent vos parents Amish. L'ambition de l'État français, elle est d'ailleurs, et c'est vrai, là-dessus, Maître Sénart a assez raison, elle est assez violente. Elle est de dire, nous avons des enfants dans cette République, et nous voulons leur donner de l'esprit critique. Et nous voulons que chaque personne, donc qu'à l'école, il n'y ait pas de signe religieux, qu'à l'école, on leur enseigne à tous la même chose, et entre autres la philosophie qui est enseignée, la littérature, l'histoire, etc. Et donc de faire de ces gens des citoyens qu'on peut prendre ensuite complètement en dehors de leur appartenance. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que du coup ça renvoie à notre identité? Parce que nous sommes un régime, et la République est un régime fondamentalement de mixité. C'est-à-dire que nous croyons que la paix sociale est garantie par le fait que les gens se mélangent et qu'ils ont la possibilité de se mélanger, et qu'ils ont surtout la possibilité de se définir en dehors de l'éducation qu'ils ont reçue à la maison, et que l'État est garant de cet esprit critique-là et de cette liberté-là. En cela, c'est évidemment, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, la laïcité, c'est un régime. En revanche, il renvoie, pour le coup, à une identité à nous qui est très profonde et à un universalisme qui est très français et qui est l'exception française et qu'on a du mal d'ailleurs à expliquer aujourd'hui aux autres.
Est-ce que vous voyez cette vision-là menacée aujourd'hui, Nassia Colosimo?
Moi, je la vois menacée parce qu'encore une fois, on se tourne vers les États-Unis, on dit mais regardez ce qu'ils font, est formidable, mais regardez la société américaine, regardez où ils en sont eux et regardez où ils en sont.
Mais
je ne dis pas
les États-Unis, c'est formidable, je dis juste. Et je partage les principes que vous venez de dire pour la France. C'est-à-dire que je dis juste, soyons cohérents. Dès lors qu'on pense, comme vous le dites, que l'État doit former ses citoyens, il faut mettre en œuvre la réforme que voulait Savary en 84. Il faut arrêter de financer des écoles confessionnelles. Les États-Unis n'ont pas idéal. Non. Et pour autant, ils interdisent ce financement des écoles confessionnelles.
Les écoles privées sous contrat qui sont immensément majoritaires, parce que tout simplement, si elles ne sont pas sous contrat, elles sont inabordables pour les parents en France. Les écoles privées, donc, comme vous le disiez, sont très justement, sont presque toutes confessionnelles, mais elles sont presque toutes sous contrat. Et dans une école que vous appelez confessionnelle, une école en tout cas privé, généralement d'obédience religieuse, catholique pour la plupart, pas que, mais catholique pour la plupart, on applique intégralement le programme. C'est à ce prix-là qu'elles sont sous contrat.
Avec des cours de religion en plus.
Mais epsilon, c'est-à-dire que vous avez effectivement le choix.
Epsilon, mais le financement, c'est une enveloppe globale qui finance l'ensemble de l'enseignement.
Il ne faut pas être des ayatollahs.
Ce serait mentir de dire que dans les écoles privées, l'enseignement est sensiblement différent, comme c'est le cas aux États-Unis. En France, dans une école privée sous contrat, 99,5% des enseignements sont les mêmes. Donc je ne dis pas qu'il faut garder ça, le même enseignement pour tout ça, epsilon près.
Si l'enjeu, comme le disait Philippe Manière tout à l'heure, est désormais pour la République française, qui intègre une population de confession musulmane plus importante que dans les années précédentes, c'est de réaffirmer, non plus seulement vis-à-vis du catholicisme, mais vis-à-vis de l'ensemble des religions, les principes de laïcité. À ce moment-là, la meilleure des choses à faire, c'est de faire respecter au maximum ces règles de laïcité, et je dirais d'une certaine façon de balayer devant notre porte, c'est-à-dire de faire en sorte que aucune école confessionnelle ne puisse être financée par de l'argent public. Ça, c'est tout ce que je veux emprunter aux États-Unis. Et par ailleurs, qu'on arrête avec le concordat en Alsace-Moselle, c'est-à-dire qu'on mette la loi de la République sur l'ensemble du territoire français. Enfin, comme ça, on sera irréprochable.
Sylvain, vous
savez
sans doute le concordat, c'est parce que sinon les Alsaciens voulaient juste pas revenir en France.
Mais enfin, donc, comment voulez-vous
peut-être aussi respecter l'identité des gens qui ont accepté de revenir en France dans certaines conditions.
Mais comment voulez-vous expliquer aux musulmans ce qu'est la laïcité si on commence par avoir une laïcité qui connaît des entorses, des exceptions? Je pense qu'il faut qu'on l'applique pleinement.
Premièrement. Et deuxièmement, pour moi, la question, elle est, en fait, elle se pose pas là. C'est-à-dire qu'on peut parler des Asmodèles, etc. Pour moi, tout ça est assez marginal. La question,
enfin, c'est des millions de personnes, quand même.
La question aujourd'hui qui est fondamentale, c'est juste de dire, en fait, on vous explique, le régime français, c'est que la loi de la République passe avant la loi religieuse. Voilà,
c'est la moindre des choses.
Oui, c'est la moindre des choses.
D'abord, la République ne connaît pas la moindre loi religieuse. Ça n'a même pas de sens, la loi
religieuse.
Oui, mais
par exemple, les accommodements raisonnables aux États-Unis, c'est exactement ça. Les accommodements raisonnables, c'est de dire ma loi religieuse m'empêche d'obéir à la loi de tout le monde.
Je ne dis pas que le système américain est le meilleur. Je dis simplement que, y compris aux États-Unis, il y a parfois des choses qui sont un peu plus cohérentes qu'en France. Et puis, petit rappel historique, ce sont les Américains qui, un siècle avant la France, ont inventé la notion même de laïcité. Il faut lire le très beau livre de Denis Lacorne sur le sujet.
Mais justement, ils n'ont pas inventé la laïcité parce que la laïcité, c'est français. Ils ont inventé Dieu américain.
À ce moment-là, les droits de l'homme, c'est français. La Magna Carta, ça n'a jamais existé.
La première révolution
dans l'histoire, c'était la révolution française.
Le Dieu américain, ça n'est pas du tout le même régime que la manière dont on traite la religion en France. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est justement parce qu'on n'arrive pas à expliquer ça qu'on a du mal à défendre.
Il n'y avait pas de religion civile au XVIIe siècle.
Je reviens pour terminer, parce qu'on est déjà presque au terme de l'émission, sur l'initiative de Charlie Hebdo, juste pour savoir ce que vous en pensez de cette initiative. Juste en deux mots, voilà ce qu'ils ont envoyé comme proposition. Nous demandons aux candidats, candidates à la présidence de la République, de s'engager clairement sur les trois points suivants. Donc, ne pas modifier la loi de 1905, ne jamais introduire dans la législation, sous quelque forme que ce soit, des aménagements particuliers à l'égard d'une communauté religieuse, ne jamais introduire un délit de blasphème dans la législation. Est-ce que cette initiative vous paraît intéressante, Philippe Magnin, Anastasia Colosimo et Sylvain Bourmeau? Est-ce qu'elle vous paraît surtout nécessaire aujourd'hui?
Je ne crois pas que ce soit d'une très grande nécessité. La question du blasphème me semble importante, parce que c'est vrai que dans l'affaire Charlie Hebdo, c'est ça qui a été opposé aux malheureuses victimes par ceux qui voulaient qu'ils disparaissent parce qu'ils avaient blasphémé. Et on ne le dit pas assez, c'est ça aussi qui a posé un problème dans la recension qui a été faite de cette affaire dans certains pays, dont les États-Unis, qui ont beaucoup de qualités, mais pas toutes. Et aux États-Unis, par exemple, il était presque impossible de reproduire la caricature qui avait valu la mort au pauvre dessinateur, parce que ça posait un problème. Il n'y a pas de blasphème dans la loi américaine, mais il y a l'usage de ne pas blesser, de ne pas heurter la foi des individus. Et je me souviens avoir entendu, je crois, autour de cette table par Caroline Fourest, cette explication très, cette défense très intéressante, je trouve, de cette espèce de police de la laïcité que fait l'État, sur le thème si c'est pas l'État qui le fait, ce sont les puissances privées qui le font. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, le problème, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a pas de blasphème, il y a pas d'incrimination à raison d'un blasphème, mais on peut pas blasphémer librement parce que tout simplement, il y a personne qui vous ouvre ces colonnes pour blasphémer. Donc c'est un sujet qui reste important, me semble-t-il.
Il est nécessaire que les candidats à la présidentielle s'engagent sur des questions liées à la laïcité.
Non, mais d'ailleurs, je pense pas tout à fait que ça soit le rôle d'un journal d'imposer ce genre de choses. En revanche, là où je rejoins Philippe Manière, c'est évidemment sur la question du blasphème. Et d'ailleurs, c'est très sensible, parce que ce que dit Charlie Hebdo, c'est dans la loi et dans la jurisprudence. Parce qu'en fait, la loi, c'est la loi Pleven, hein, de 1972, elle est extrêmement ambiguë, et la jurisprudence, elle est quand même assez flottante sur ces questions de délit de blasphème ou non, de ces offenses aux croyants. On voit ça, on voit fleurir les offenses aux croyants un peu partout en Europe. Donc là, je pense que là-dessus, quand même, il y a une question, et sur la liberté d'expression de manière générale.
Sylvain Bourmont, il vous reste 30 secondes, soit pour répondre à ma question, soit pour redire un mot de votre documentaire diffusé sur France 5 dimanche soir.
Mais qu'est-ce que je vais choisir d'après vous?
Bah, je sais pas, vous faites comme vous voulez.
C'est dimanche soir sur France 5 à 22h35 et vous pourrez y entendre parler de la question de l'identité des chercheurs en sciences humaines et sociales, Luc Boltanski, Didier Fassin, Sandra Logier, Vincent Descombes, Patrick Boucheron et puis des écrivains comme Virginie Despentes, Pascal Quignard, Patrick Chamoiseau, évidemment je vais en oublier plein.
Il faut regarder pour savoir qui vous aurait oublié.
Voilà, Mathias Hénard qu'on a entendu tout à l'heure par exemple, et puis le poète Olivier Cadio.
Voilà, bah merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Donc Sylvain Bourmont, Philippe Manière et Anastasia Colosimo, émission que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Céline Leclerc, Isolde Sicard, Louise Fuseau, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Pascal Baudin. À partir de lundi, nous allons vous proposer une semaine de programmation spéciale dans le Grain avant le premier tour, une série de débats de société évoqués lors de cette campagne présidentielle. Nous commencerons lundi avec la question suivante: faut-il rétablir le service militaire obligatoire? Le prochain rendez-vous avec le Club des idées du vendredi, ce ne sera pas vendredi justement, mais ce sera le lundi 24 au lendemain du premier tour. On fera la même chose au lendemain du second tour pour commenter les résultats de cette folle élection présidentielle.